Coucou à toutes, coucou à tous, c'est Charlie. Eh bien, on se retrouve pour une nouvelle lecture érotique. L'infernal podcast consacré à la littérature érotique continue de plus belle. Alors, cette semaine, je vais vous lire des extraits d'un livre qui est paru aux éditions La Musardine dans la collection Lectures amoureuses. Et c'est un livre qui est anonyme, en fait. On ne sait pas par qui c'est écrit. C'est un petit joyau de la littérature érotique clandestine. Alors, il y a une petite préface qui est écrite par Sophie Rongiras, qui gère un petit peu la collection, qui est partie à la recherche de l'auteur, qui, qu'est-ce, quoi. C'est compliqué de savoir. En tout cas, c'est un livre qui a été interdit, en fait condamné à la destruction par un arrêt de la cour d'assises de la Seine le 23 décembre 1914. Mais en fait, il n'a pas vraiment été détruit en 1950. Il y avait pas mal de vieux manuscrits de littérature clandestine qui étaient un petit peu revus à la sauce, mais édulcorés. Et elle a réussi à retrouver l'original, Sophie Rongiras. Et du coup, c'est publié sous le nom de Anonyme. Et c'est un extrait de L'éducation d'une demi-vierge. Ça correspond, le titre exact, ça correspond à Select Luxure ou Variations sur toute la lyre. En fait, c'est le quatrième tome d'une pentalogie qui est paru au début du XXe siècle. Donc, cet épisode de l'éducation d'une demi-vierge, je vais vous en lire quelques extraits, vous allez voir, c'est totalement débauché. En même temps, il n'y a jamais de vulgarité. C'est un petit bijou, c'est hyper agréable à lire. C'est en même temps fort excitant par moment, vous allez voir, un petit bonheur. Alors, l'éducation d'une demi-vierge, d'un auteur anonyme ou d'une autrice, d'ailleurs on ne sait pas. C'est parti. Cette demeure est un couvent aussi célèbre par ses richesses que par la pitié des saintes âmes qui font leur salut à l'ombre de ses murailles. En effet, la maison de Sainte-Marie-Magdeleine est connue dans tout le pays, et l'éducation des saintes nonnes, qui couvent sous leurs ailes les fillettes de l'aristocratie de l'argent, est une puissante recommandation pour les familles qui n'hésitent pas, lorsqu'elles le peuvent, à mettre là leurs enfants afin qu'elles soient élevées pieusement, tout en prenant leurs grades universitaires. C'est dans cette maison qu'était entré, arrivant de la succursale de Paris, un certain jour de l'année 1906, une jeune novice de 17 ans, et qui, dès son arrivée, avait été conduite auprès de la mère supérieure. Celle-ci était une grande et forte femme de 50 ans environ, brune, avec un soupçon de moustache, des yeux noirs et vifs sous sa cornette blanche, et l'embonpoint imposant des Autrichiennes bien en chair, mais un embonpoint ferme de la femme qui y a vécu, mais qui ne fut pas amolie par la maternité. La novice était une merveille de jeunesse, de grâce captivante, d'une beauté qui perçait malgré le costume sévère de l'ordre. Sœur Angèle, avec ses 17 ans en fleurs, était un vrai morceau de roi. Blonde et rose, avec des yeux myosotis aussi angéliques que son nom, une bouche petite et rose qui s'ouvrait sur des dents que l'on aurait souhaité sentir entrer dans sa chair. Elle aurait fait la conquête d'un saint du paradis. Et encore, nous ne pouvons parler de ses autres beautés cachées par la robe de bure et la cornette descendue jusqu'au milieu du front. Mais ce que l'on voyait aurait suffi à damner un dévot, Jean cependant réfractaire à la tentation, comme chacun sait. Cependant, la supérieure, assise devant le bureau directorial, feuilletait le dossier de la sœur novice. Tout en lisant, elle rougissait et pâlissait tour à tour et jetait un coup d'œil sur la jeune fille assise en face, les yeux modestement baissés et les mains blanches cachées dans les larges manches de la robe. Lorsqu'elle eut achevé sa lecture, la supérieure fronça le sourcil d'une façon menaçante et regarda un moment, sans mot dire, la jeune fille qui était devant elle. Enfin, elle se décida à parler. « Sœur Angèle, vous n'ignorez pas quelles sont les raisons honteuses qui vous ont valu ce déplacement, ce départ loin des vôtres, l'exil dans ce pays. Je veux espérer qu'ici, vous chasserez par la prière et la méditation les images obscènes qui hantent votre cerveau. Et par le régime sévère qui vous sera imposé, nous mortifierons votre chair coupable. Vous fûtes une brebis galeuse dans le troupeau des saintes filles au milieu desquelles vous viviez. Comment leur exemple ne vous a-t-il pas préservé des pensées impures? Comment avez-vous pu succomber à la tentation? De quels diaboliques artifices avez-vous dû vous servir pour corrompre et faire tomber dans le péché de luxure de jeunes âmes innocentes? Parlez! Comment cela se fait-il? Par un puissant effort de volonté, sœur Angèle amena à ses yeux quelques larmes et cacha son visage dans ses blanches mains, paraissant secouée par des sanglots. La supérieure attendit un instant et lui répéta son injonction. « Parlez! Confessez-vous, je vous l'ordonne !» La jeune novice alors, d'une voix musicale et douce, parla. Les yeux baissés, elle fit le récit de son séjour dans le couvent de Paris. Mais cette histoire fut racontée de façon à lui donner le beau rôle, ou du moins à la montrer plutôt victime que tentatrice. Ne pouvant nier la matérialité des faits, comme disent les juges, elle plaida des circonstances atténuantes. Mais l'auteur de ces lignes, qui connaît exactement l'histoire, va vous la conter, avec la vérité toute nue. Le divorce de ses parents ayant été prononcé au tort et grief de sa mère, elle fut mise en pension comme il avait été décidé. Elle avait à peine 15 ans. Parmi ses camarades, car elle resta une année comme élève, deux jeunes Anglaises jumelles, plus âgées qu'elle de 2 ans, Margaret et Muriel Atkinson, la prirent en grande affection, l'embrassant à tout instant, la cajolant, enfin en avaient fait, suivant le terme du pensionnat, leur petite fille, dont elles étaient les petites mères. Au dortoir, les lits des deux sœurs et le sien étaient voisins, et elles se rendaient quelques visites mutuellement derrière leurs rideaux pour bavarder en liberté. Un jour, ayant froid, l'une d'elles proposa de se réunir dans un lit au lieu de se geler les jambes à se promener. Aussitôt dit, aussitôt adopté. Le lit d'Edmé, nom de jeune fille de sœur Angèle, était le plus grand. On y alla en se serrant beaucoup, en se mettant les unes sur les autres, on put y tenir à 3. L'une des jumelles, Margaret, était plus forte que sa sœur et avait déjà une poitrine très développée. En se tassant sur la couchette, Edmé par mégarde la heurta du coude. Margaret poussa presque un cri et porta la main à son sein. « Méchante ! Tu m'as fait mal ! Pardonne-moi, je ne l'ai pas fait exprès !»« Aussi, dit Muriel, peut-on avoir des tétons pareils à notre âge ?» Cependant, Margaret avait exhibé le sein meurtri. « Embrasse-le au moins, méchante !» Edmé, à l'aspect de cette poitrine jeune et ferme, à la peau si blanche, en voyant ce sein qu'on lui tendait avec son bout rose à peine en saillie, sentit en elle les fourmillements du désir et une chaude bouffée de sang lui parcourut les veines. Elle se pencha vivement sur ses trésors, dont la blancheur, dans la demi-lumière des veilleuses, se confondait avec celle de la chemise, et déposa un gros baiser à lèvres ouvertes sur cette chair tiède et embaumée. Puis, emportée par la passion depuis longtemps contenue, elle accentua son baiser, pointant légèrement la langue sur le mamelon sensible, et enfin se mit à sucer, tandis que sa main allait chercher le voisin pour caresser et chatouiller le bout de plus en plus en érection. Margaret se laissa faire, et au bout d'une minute, se mit à osciller le buste, haussant le ventre d'une manière significative. Muriel suivit d'abord la scène d'un œil pas trop surpris et, à un moment donné, prit la main d'Edmé et la conduisit entre les jambes de sa sœur dont elle avait relevé la chemise. Cette main polissonne, comprenant aussitôt le travail qu'elle avait à faire, écarta les cuisses et se faufila dans les poils frisés d'un petit chat ravissant, ferme et bombé, et 2 doigts s'insinuèrent entre les lèvres déjà mouillées pour venir déloger le petit bouton d'amour qui bandait dur comme un morceau de bois. Les petits doigts pianotèrent, le mesurant, le contournant, le chatouillant tant et si bien que la crise arriva délicieuse. Une main s'appuya sur les doigts chatouilleurs comme pour leur faire écraser ce petit chat qui faisait pipi d'amour en bâillant de joie. Les seins se dressaient, turgescents et durs, avec des bouches épanouies, et la bouche d'Edmé continuait ses caresses de l'un à l'autre, excitée par les soupirs de la patiente. Cependant, Muriel s'était levée. Elle délogea la main qui travaillait encore dans la fente inondée et, écartant bien les jambes de sa sœur, elle se pencha et appliqua sa bouche sur la vulve pantelante. Les mouvements du ventre recommencèrent et les cuisses de la gamahuchée se lièrent au cou de Muriel en un collier de chair chaude et enfiévrée par la luxure. La bouche d'Edmé avait quitté les tétons. C'était ses mains maintenant qui les pétrissaient et le bout de ses doigts qui agaçait les boutons vermeils. À demi soulevée, elle contemplait le visage de l'opéré, suivant les traits un peu crispés, les progrès de jouissance. Puis elle s'approchait de la bouche rouge et entr'ouverte, léchait d'abord légèrement les lèvres gonflées, puis plongeait sa langue dans le calice altéré qui se refermait pour la retenir prisonnière et la sucer. Mais les soupirs s'accentuèrent et un cri étouffé annonça que Margaret jouissait à nouveau. Son ventre arqué retomba, ses cuisses s'ouvrirent et restèrent écartées. Elle était anéantie par cette double jouissance. Muriel, agilement, acheva de lécher l'humidité qui coulait sur les cuisses et les fesses de sa sœur, puis grimpa sur elle, ventre à ventre, puis la pigeonna, les lèvres et la langue encore humides, en agitant les fesses à la façon d'un mâle. Margaret, revenue à elle, la serra dans ses bras, lui donna sa langue et, passant la main entre les fesses, la branla vigoureusement. La jouissance arriva vite. Elle fit alors coucher sa sœur à la renverse, lui apporta son cul sur les lèvres et alla dénicher entre les cuisses écartées le clitoris enflammé qui montrait son petit nez rose dans les poils fauves déjà épais. Elles jouirent dans un 69 effréné sans s'occuper de leur compagne qui les regardait faire et supposait bien que les deux jumelles devaient depuis longtemps être accoutumées à ces doux jeux. Toutefois très excitées, Edmé se mit à se chatouiller elle-même et un spasme violent la fit halter un peu après la crise des deux sœurs. Celles-ci étaient d'abord restées dans leur position, anéanties de jouissance, puis, entendant les soupirs d'Edmé, elles se désunirent. Elles se ruèrent sur la jouisseuse qui terminait le jeu du doigt, la firent se coucher sur le côté et lever une jambe, puis Margaret, écartant les lèvres du jeune minet blond qu'elle pelota un instant, se mit à le gougnoter, tandis que Muriel, ouvrant les deux globes blancs du cul de la jouvencelle, darda sa langue longue et gourmande dans l'orifice du petit œillet plissé. Elles n'eurent pas de peine à provoquer le divin spasme. La jouissance arriva, vive, foudroyante, et Edmé, qui n'avait jamais été à pareille fête, faillit crier de joie. Voilà, ça c'était un premier extrait. Donc, attention, premier chapitre, ça attaque fort. Mais ce n'est que le début. Regardez, on va passer au chapitre 3, où là, on va arriver dans une orgie absolument démesurée. Chapitre 3 de l'éducation d'une demi-vierge par un auteur anonyme, c'est parti. Edmé, lancée toute jeune dans la débauche, avec la complicité de sa mère, avait constamment les sens en éruption et s'en donnait à cœur joie au milieu de ses chaudes compagnes. Suant le vice et la luxure, elle mettait en émoi toutes celles qui étaient tant soit peu prédisposées à ce charmant péché rose. Et elle vivait là, dans un milieu qui convenait à son tempérament amoureux et lesbien. Cependant, elle pensait souvent à Daniel et dans ses rêves, elle le voyait. Croyait sentir sa main comme la première fois qu'il l'avait mise entre ses jeunes cuisses, puis sa langue si habile dans sa petite fente vierge. Elle revoyait aussi sa mère, chemise troussée, fesses en l'air, à cheval sur son amant. Elle se représentait ce gros cierge s'enfonçant dans la vulve maternelle. Ce gros cul dansant de plaisir, s'ouvrant, se refermant, puis s'aplatissant dans la jouissance finale. Elle revoyait tout cela et, haletant de désir, elle se branlait furieusement ou se livrait à une compagne qui avait peine à éteindre ses ardeurs. Mais entre ces débauches, c'était la jeune fille la plus réservée, la plus pieuse, la plus modeste de tout le couvent. Aussi, après 2 ans de cette vie en partie double, sainte à la chapelle et messaline au lit, la supérieure qui l'avait entreprise pour la décider à rester au couvent obtint qu'elle prît la robe des novices. Notre jeune héroïne ne vit qu'une chose dans ce nouvel avatar, la possibilité de recruter d'autres jeunes chats pour ses lèvres avides et d'autres langues pour son bouton toujours en chaleur. La cérémonie fut donc faite et Edmée devint sœur Angèle, suivant le nom choisi par la supérieure qui la trouvait absolument angélique. Les beaux cheveux furent cachés sous la cornette, les appâts si fêtés furent dissimulés sous les plis de la robe de bure et les idées cochonnes voilées plus que jamais sous l'allure d'une sainte de vitrail. Son enrôlement dans le chaste bataillon attira sur elle l'attention de tout le couvent et pendant quelque temps, elle dut s'observer plus que jamais, réfréner ses envies lubriques ou les satisfaire d'une façon discrète et solitaire. Mais l'habileté de ses doigts ne pouvait lui faire oublier la langue de ses compagnes, petites ou grandes. Aussi, au bout de quelques jours, elle n'y tint plus et étudia les moyens nouveaux de jouir que lui procurait son habit. La luxure est certainement le vice le plus contagieux et le proverbe de la brebis galeuse le plus exact des proverbes. Dans cette sainte maison, parmi ces jeunes pucelles en robe courte ou longue, la contagion sévissait. Les idées impures semées par notre jeune héroïne germaient dans les cerveaux et les cœurs. La mauvaise graine jetée sur un terrain propice avait déjà levé. Les sens s'affolaient. Les petites fentes, avec ou sans poils, étaient en émoi. Les petits boutons bandaient, appelant les caresses du doigt ou de la langue. Mais les yeux se cernaient. Les allures devenaient languissantes, les jeux bruyants étaient délaissés et le travail s'en ressentait. La direction effrayée, soupçonnant le mal sans en connaître l'origine, redoubla de vigilance jour et nuit. Une surveillance permanente fut organisée dans les dortoirs. Les sœurs les plus pieuses, les plus modestes, en furent chargées à tour de rôle, et l'on pense bien que sœur Angèle, au parfum de vertu, ne fut pas la dernière à être désignée pour remplir cet office à jour fixe. Est-il besoin de dire quelle joie l'envahit à cette nouvelle ? On lui offrait une occasion de débauche beaucoup plus commode et plus sûre que tout ce qu'elle avait imaginé. En recevant cet ordre, elle faillit se trahir, mais la rougeur ardente qui instantanément couvrit son visage fut imputée à sa timidité et sa modestie. La voici donc installée dans le dortoir pour passer la nuit à son tour et veiller sur le sommeil des jolies fillettes. Dès que celles-ci furent couchées, elle commença sa ronde derrière les rideaux. Quelques-unes dormaient ou faisaient semblant. D'autres, hardiment, avaient les yeux ouverts et souriaient à la jeune surveillante. Sa réputation était exactement établie chez les élèves. Elle s'était chuchotée tout bas, se racontant les bonnes choses qu'elles avaient apprises à quelques-unes, les cochonneries délicieuses qu'elles faisaient et qu'elles se faisaient faire. L'habit religieux en imposa un peu les premiers jours, mais la nuit, dans ce dortoir où couraient dans l'air des frissons de luxure, où l'on sentait dans la demi-obscurité des désirs voltés d'une couchette à une autre, le respect de la robe monastique disparaissait pour faire place aux envies folles de voir et de caresser ce que cachait cette robe grossière. Cependant, les projets de sœur Angèle étaient tout autres. Elle avait suivi plusieurs lits occupés par des fillettes qui dormaient ou feignaient de dormir lorsqu'elle arriva vers celui de la petite Marie, sa brune préférée. Celle-ci avait rejeté ses couvertures. Sa chemise était relevée et, entre ses cuisses, sa main était occupée à une douce manœuvre. Sœur Angèle se pencha pour se rendre compte et constata le délit. « Veux-tu bien laisser cela et dormir, petite horreur ?» Et pour corriger ce que ses paroles avaient de trop sévère, elle se baissa sur le visage de la gosse et l'embrassa sur la bouche. Puis sa main alla déloger celle de l'enfant et elle se mit à la branler délicatement. En quelques chatouilles, elle amena la crise. « Voyez cette polissonne qui est toute mouillée maintenant. Non, n'essuie pas avec ta chemise, on le remarquerait. Laisse-moi faire. » Et ce fut sa langue qui parcourut les cuisses, la vulve inondée, les fesses. Elle essuya bien tout, puis ses lèvres se recollèrent à la source et la firent couler encore une fois. La victime soupirait, et dans les lits voisins, des bustes se dressaient pour voir, et le rut, de proche en proche, gagnait tout le dortoir. Marie s'était endormie, abrutie de jouissance, et sœur Angèle, les yeux brillants, se passa la langue sur les lèvres. De ses mains tremblantes, elle recouvrit la fillette, puis continua sa ronde. Ce fut d'une paillardise inouïe. Elle se rattrapa de son jeûne forcé, la nonne. Petites ou grandes, toutes celles qui se trouvaient éveillées dans l'attente de l'événement mystérieux qu'elles savaient devant avoir lieu derrière les rideaux, toutes celles, dis-je, qui manifestaient quelque volonté facile à exprimer par leur attitude, furent sucées et ressucées impitoyablement par la goule qui les visitait. Les cuisses s'ouvraient, déjà mouillées, les ventres se bombaient, les petits seins, gros comme des mandarines, se durcissaient avec le petit bout en l'air. Les mains douces, fuselées et déjà longues de la nonnette, caressaient doucement ses membres encore grêles, relevaient la chemise, glissaient sur le ventre, pelotaient les tétons, s'insinuaient dans tous les coins, les plis. Un doigt inquisiteur sondait les orifices. Les vulves s'ouvraient d'elles-mêmes. Les clitoris exacerbés se dressaient, rouges et durs. Trois coups de langue faisaient jouir la patiente, qui sentait la bouche chaude et aspirante continuer ensuite sa manœuvre, tandis qu'un doigt fureteur s'enfonçait dans l'anus et qu'une main pelotait leur jeune sein. Et cela durait jusqu'à l'anéantissement, la chute dans un sommeil irrésistible. Puis le lit rajusté, la prêtresse de luxure passait à une autre. Elle continua ainsi toute la nuit à sucer des pucelles, à farfouiller des vulves, jamais la même. Toute la nuit, altérée et insatiable, elle but à même les calices le jus de ces jeunes vierges, aspirant leur sève par leurs parties intimes. Et le matin, lasse et rassasiée, il restait encore un certain nombre de fillettes qu'elle n'avait pas encore polluées. Sa pâleur au matin était naturelle, après une nuit blanche, et la supérieure, bonne femme, l'envoya se reposer. Dans sa cellule, elle fit ses ablutions, elle en avait besoin, ayant joui dans sa chemise au moins 4 ou 5 fois. Une fois lancée dans la paillardise, et surtout de ce genre-là, on ne s'arrête plus. Sœur Angèle soupirait après une nouvelle nuit pareille, et cela eut lieu quelques jours après. On s'était causé entre élèves. Et celles qui n'avaient pas encore reçu le baptême de la langue furent renseignées et ne se firent pas prier. Toutes, cette fois-ci, toutes y passèrent. Il y en avait 22 dans ce dortoir. Eh bien, les 22 conins, avec ou sans poils, furent léchés par une habile gougnotte qui les laissa anéantis de jouissance. Elles s'étaient du reste excitées les matines, seules ou en compagnie, et en attendant leur tour, beaucoup faisaient avec leurs voisines des exercices spéciaux, et on pouvait apercevoir sur certains lits quelques jolies petites bêtes à deux dos. Puis elles s'enhardissaient, formaient des groupes. Certaines, plus mignonnes, plus jolies, étaient aimées par plusieurs à la fois. Et tout cela s'effectuait discrètement et sans bruit. Elles savaient bien, les petites vicieuses, que si quelque chose se découvrait, ce serait fini à tout jamais de ces bonnes choses. Elles se contentaient donc de soupirer doucement quand la jouissance arrivait. Quelques-unes suivaient les ébats de sœur Angèle d'un lit à un autre, comme pour prendre des leçons. Parfois même, elles participaient à l'œuvre des caresses. C'était surtout lorsqu'il s'agissait d'une fillette non encore initiée qui, surprise, poussait des soupirs un peu trop bruyants. Sœur Angèle appelait alors une des suivantes. « Empêche-la de crier !» Aussitôt, une d'elles se détachait et posait sa bouche sur celle de la patiente pour étouffer ses involontaires manifestations de joie. Cette fois, le sérail était constitué. Tout le dortoir des moyennes de 12 à 16 ans y avait passé. Tout était pollué. Et ces demi-vierges vicieuses, gagnées par cette douce luxure qui est toute caresse et n'a pas la brutalité de celle du mâle, ces jeunes amoureuses adoraient leur sultane, la dispensatrice de ces 12 émois. Aux récréations et partout où elles pouvaient l'approcher, elles lui témoignaient leur attachement de quelque façon, par une déclaration d'amour, un baiser sur la main, sur la robe, etc. La nuit, elle rêvait d'elle en se branlant et leur plus grand bonheur aurait été de lui rendre ses caresses. Elles finirent par se communiquer leurs impressions et formèrent un projet dont on verra plus loin l'exécution. Lorsque le tour de veille de ce Rangel arriva, les scènes décrites précédemment se renouvelèrent et, vers 2 ou 3 heures du matin, toutes les élèves avaient joui sous la langue de leur divine maîtresse. Alors un groupe des plus grandes l'entoura et, sans lui demander son autorisation, elles la saisirent et la renversèrent sur un lit. « Déshabillons-la ! Non, non ! Laissons-lui sa robe de religieuse, ce sera bien plus piquant ! Chut, chut, laissez-moi ! Voyez-vous ces polissonnes ! Laissez-moi, vous dis-je, on peut venir !» Mais elle se débattait vainement. Solidement tenue par 20 bras, elle dut se résigner. Elle fut troussée, ventre et cuisses nues, sa jolie motte blonde en l'air. D'autres lui ouvrirent son corsage. Des mains impatientes sortirent les seins petits encore, mais bien formés, et des bouches s'abattirent. Tout cela se passait dans le plus grand ordre. Les élèves s'étaient entendus et chacune avait son rôle. Les lits étaient vides. Tout le monde était réuni autour de la scène lubrique qui se jouait et les spectatrices devaient être actrices à leur tour tout à l'heure. Des langues fouillèrent le minet, les chairs, les cuisses mouillées par les jouissances précédentes, puis celle qui, désignée par le sort, devait terminer l'opération, se mit à sa douce besogne. Les autres se contentèrent du coin de chair qu'elles purent découvrir. La nonnette était trop échauffée pour résister longtemps à ce traitement. Elle jouit bientôt en secouant le ventre sous ses bouches goulues. Un autre groupe s'approcha et recommença la fête, qui eut la même issue. Puis un autre. 4 fois, sœur Angèle versa ses libations amoureuses. 4 fois consécutives, ces vierges débauchées la conduisirent au ciel, la laissant exténuée. Les élèves aussi étaient lasses. Elles avaient fait cette nuit-là une orgie de caresses. Tout en suivant les gestes lubriques exécutés sur leur maîtresse, leurs mains n'avaient pas chômé. Des duos s'étaient joués, bouche à bouche, les mains entre les cuisses. Des têtes s'étaient faufilées sous les chemises. Les jeunes Mimi avaient pleuré de joie. Toute la nuit, on avait entendu des soupirs étouffés, des bruits de baisers. L'atmosphère était imprégnée des senteurs de ces jeunes vulves en chaleur. Chacune avait regagné son lit péniblement. Des couples de 2 s'étaient endormis enlacés et sœur Angèle succomba elle-même dans les bras de sa petite gougnotte Marie. Le jour lui-même ne les réveilla pas et le soleil inondait de ses rayons le dortoir virginal lorsque la supérieure, inquiète de ce silence anormal, s'en vint voir ce qui se passait. D'un coup d'œil, la femme expérimentée eut l'explication du mystère. Du reste, le tableau étalé sous ses yeux était des plus explicites. La plupart des élèves ne s'étaient pas recouvertes et étalaient leur nudité. Ça et là, on voyait un ventre, une cuisse, une paire de fesses. À côté, un couple enlacé, les mains entre les jambes. Plus loin, d'autres encore endormis tête bêche. Et enfin, sœur Angèle, troussée, dépoitraillée, tenant dans ses bras sa petite amie. Toutes, saoules de caresses, cuvaient leur amour. Sur cet amas de chair flottait le parfum de tous ses sexes. La supérieure s'arrêta un moment au milieu de la pièce, pétrifiée, puis, femme de sang-froid, elle réfléchit. Il fallait à tout prix éviter le scandale. D'un doigt, elle toucha sœur Angèle qui ouvrit des yeux hagards en voyant la supérieure, mais celle-ci avait mis un doigt sur ses lèvres pour lui imposer le silence. La nonnette comprit et se dégagea doucement de sa compagne qui continuait à dormir. Rougissante, elle rabattit ses jupons, se rajusta et doucement suivit la supérieure. 10 minutes après, elle revenait, frappait dans ses mains et réveillait le troupeau qui ne s'était aperçu de rien. Puis, sœur Angèle disparut. Voilà, c'était le chapitre 3 de L'éducation d'une demi-vierge. C'est paru aux éditions La Musardine et l'auteur est anonyme. Eh bien, voyez, c'est l'orgie la plus totale et croyez-moi, c'est pas fini. Il y a en tout 9 chapitres qui forment ce livre et ça ne s'arrête pas. Et la débauche, la luxure envahissent la totalité de la vie de Sœur Angèle, Edmée, alias Sœur Angèle. Après, elle va retrouver sa mère et là, ce sont des amours incestueux qui vont avoir lieu. Bref, un vrai petit bijou de littérature érotique et Jamais de vulgarité dedans, jamais d'ambiance glauque, malsaine, alors qu'on pourrait se dire waouh, l'inceste et tout. Eh ben, pas du tout, du tout. C'est mon conseil lecture d'ailleurs de la semaine, hein. Ça se lit avec beaucoup de bonheur, l'écriture est fluide, hyper plaisante et c'est même très excitant, je dois vous l'avouer. Donc, si vous voulez vous procurer ce livre, direction le site lamusardine.com. Je vous rappelle le titre L'éducation d'une demi-vierge. Par un auteur anonyme. C'est dans la collection Les Lectures Amoureuses aux éditions La Musardine. Eh bien voilà, cette lecture érotique est terminée. La suite, ce sera la semaine prochaine. En attendant, pour retrouver tous les podcasts de toutes les précédentes lectures érotiques, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site charlie-liveshow.com. C'est là que vous pourrez retrouver tous les podcasts. Eh bien, vous pouvez reprendre une activité normale. Alors, bonne journée, bonne soirée. Tout dépend l'heure qu'il est au moment où vous écoutez ce podcast. Et moi, je vous dis à très, très, très bientôt. Ciao, ciao, ciao.